Bonjour, ici François Nardou de Montcuq depuis les studios du Boulevard. Nous enregistrons dans les derniers jours avant Noël et la période se prête donc à ce que je traite de cette question, de ce sujet. Des 12 jours entre Noël et le jour des rois, mais dans la symbolique et l'imaginaire, dans la mythologie si vous voulez. Je l'ai sous-titré « Du paradis perdu au paradis retrouvé ». Alors pourquoi cela ? Il faut d'abord dire que, historiquement, vu les conditions de milieu naturel en Judée et les traditions rurales en cette contrée, ce que nous disent les évangiles nous permet de dire que Jésus est en fait né, tous les historiens en sont d'accord là-dessus, est donc né entre avril-mai et septembre-octobre, car les bergers gardaient leurs troupeaux en plein air toute la nuit. Du reste, l'église ancienne d'Égypte fêtait la naissance du Christ en juin, le 6 juin même, peu avant le début de la crue du Nil, qui était fixée rituellement à notre 18 juin. Fête de Saint-Avit de Missy, Saint-Patron de Belmonte, près de Montcuq. Vous noterez les deux dates, 6 juin et 18 juin. À notre époque, ça a pris une autre tonalité. Alors, dans l'émission de Noël 2021, de décembre 2021, je vous avais posé les bases historiques de la fixation de la date de la fête de la naissance du Christ au 25 décembre et les raisons qui expliquaient le choix de cette date. Il est évident que le fait que ça corresponde au solstice d'hiver n'est pas sans influer sur la vision que les populations anciennes pouvaient avoir de cette fête. Alors, vous savez qu'en Pays d'Oc, on dit que chaque jour entre Noël et le jour des rois vous indique le temps qu'il fera à chaque mois correspondant à l'année suivante. Danadal capals reis, katsur per katmes, de Noël vers les rois, chaque jour pour chaque mois. Outre le fait que des noms comme Nadal, qui veut dire Noël, rei, le roi, sont très communs en pays occitan et catalan, comme nom de famille, mais comme nom de lieu. C'est ainsi, par exemple, que sur la commune du Boulve, à Creissens, paroisse Sainte-Marie-Madeleine, un lieu dit Nadal est aussi le berceau d'une famille de ce nom, que à Montcuq, une famille Rey portait également le nom de Bouillet, ce qui fait qu'à Montcuq, tout Rey est un Bouillet, tout roi est un Bouvier. On en vient à se pencher sur une question qui est prégnante dans nos régions où la tradition de la crèche avait largement prédominé pendant des siècles jusqu'à l'introduction récente du sapin de Noël. Dans nos régions, on pourrait se pencher sur ce qu'a été pour les populations anciennes la symbolique de la crèche, celle de l'âne, celle du bœuf, dans une grotte. Pensons à nos abris-refuges qui ont servi longtemps de granges, d'étables, en tous les pays de Cosse, du bassin méditerranéen et de ses abords. Pensez au lieu-dit Les Roques, à Creissens, aux nombreuses grottes qui ont servi d'abri-refuge, de demeure, de grange, de réserve à céréales dans toutes nos régions. Cela m'amènerait à me pencher sur la symbolique dans les grottes ornées de la préhistoire, des équidés et des bovidés. L'âne de la crèche est au cheval de Lascaux et de Pechmerle ce que le bœuf de la crèche est au bison, qui guide le visiteur vers le fond de la grotte, vers le lieu des origines, le lieu de la mise au monde de la nature par la grande déesse mère. C'est un des thèmes profonds des recherches de Maria Gimbutas, notamment dans son ouvrage fameux « Le langage de la déesse », avec lequel Jean-Loïc Lequelec, dans son ouvrage récent « La caverne des origines », marque un certain éloignement. Jean-Loïc Lequelec remet en cause les cultes d'une grande déesse mère au temps de la préhistoire. Et la grotte donc des origines en devient un lieu de retour vers la révélation, vers la lumière. C'est-à-dire que lorsqu'on visite une grotte ornée, comme Lascaux ou Pechmerle, on va de l'extérieur vers le fond et on revient du fond vers l'extérieur. On va du monde profane vers le monde le plus sacré, où renaît la lumière, et on revient vers l'extérieur. Et les dessins, les peintures des animaux, en opposition complémentaire bovidés et équidés, cheval, bison, dans la crèche, âne, bœuf, cette opposition complémentaire nous guide vers le fond, vers l'endroit où naît le jeune soleil, l'enfant Jésus dans la crèche qui naît d'une vierge. Au fond, derrière les saintes écritures, sommeilleraient de vieilles images mythologiques. il conviendrait maintenant de se pencher sur un phénomène récent dans nos régions, le sapin de Noël. Pourquoi le sapin de Noël ? Quand on sait que c'est une mode introduite dans nos pays d'oc à une date récente. Alors cela rejoint certes la symbolique des arbres toujours verts. Il faut savoir qu'en gaulois, le nom du sapin c'est Tannos, qui désigne le sapin plus que les arbres toujours verts en général. Ça donnera l'allemand Tannenbaum, l'arbre sapin si vous voulez. Alors cette symbolique des arbres toujours verts, elle est très prégnante et très ancienne en Europe septentrionale. En pays d'oc, les arbres toujours verts sont des arbres maléfiques, ce sont des arbres des trépassés. Nos fêtes de printemps occitanes utilisent des rameaux, des lauriers, des buis, mais reverdissants, reverdoyants. Comme on dit dans le fameux dicton, « Al cap de 700 ans, tournera verdezza la laurel. » Au bout de 700 ans, le laurier reverdira, à propos du laurier de la poésie troubadouresque occitane médiévale. Alors l'arbre de Noël, le sapin, le Tannenbaum, qui porte aussi en allemand le nom de Weihnachtsbaum, arbre de Noël, Weihnacht, c'est la nuit sacrée, Weihnachtsbaum, l'arbre de la nuit sacrée. Cet arbre de la nuit sacrée, c'est l'arbre du solstice d'hiver. Toujours vert, il manifeste l'idée d'immortalité, de vie sans cesse renaissante. C'est toujours les thèses de Maria Gimbutas, qui place le solstice d'hiver sous la dominance d'une grande déesse mère, auquel aurait succédé la Sainte Vierge au temps chrétien, et dans les pays chrétiens européens et ailleurs dans le monde chrétien. Au fond, qu'est-ce que c'est que le sapin Noël ? Il reproduit un très vieux glyphe, un très vieux signe symbolique que l'on connaît déjà dans les grottes ornées de la préhistoire, qui est celle de l'axe polaire vertical, qui nous dirige vers le haut. C'est un arbre connu chez les populations sibériennes comme étant l'arbre des chamans, par lequel ceux-ci accèdent au monde supérieur. Ils gravissent cet arbre, qui est souvent, c'est souvent un bouleau chez les chamans, un bouleau défeuillé, un bouleau sec. Ça peut être aussi un conifère. Ils gravissent cet arbre et montent vers le haut, vers le monde des dieux, vers le monde des esprits supérieurs, pour obtenir des réponses aux questions qu'on leur pose du fait des événements divers qui affectent la communauté dont ils sont les chamans, sorciers, guérisseurs. Et cela se retrouve même dans nos régions, c'est ainsi qu'à Saint-Aignan-de-Rouzé, entre Belmonté en amont, Moulin-Bessous en aval, Saint-Aignan est fêté le 17 janvier, les sculptures du tambour inférieur de la colonne d'angle sud-est, vers le point où le soleil se lève pour le solstice d'hiver. Il y a là toute une frise de sculptures, parmi lesquelles figure l'arbre des chamans, pivot et axe du monde, c'est un sapin sans feuilles, sec. Il désigne ce lieu comme étant, si vous voulez, un axe pivot du monde et du temps. C'est un centre du monde, tous les centres sont sacrés. Au solstice d'hiver, le soleil opère un retour vers le haut. Le soleil, qui jusque-là a décliné dans le ciel, alors que les journées se raccourcissaient de plus en plus, que les nuits s'allongeaient, au solstice d'hiver, le soleil renaît. Il remonte vers le zénith, au solstice d'été, il remonte vers le haut du ciel. Cela se retrouvera par exemple dans nos contes de Gascogne, le Contes de Gascogne, recueilli par Jean-François Bladier, juge de paix à Lectoure, dans le fameux conte sur la messe de minuit des loups. Bladier nous raconte que dans la nuit de Noël, tous les loups de Gascogne se réunissent au fond des forêts de Gascogne pour, sous la, je dirais, la maestrance, la présidence d'un loup évêque, assister à une messe célébrée par celui-ci, messe pendant laquelle, au moment de l'élévation, de la consécration et de l'élévation, à l'Orient, on voit renaître le soleil. La nuit du solstice d'hiver, c'est au fond la nuit de renaissance du soleil. Après avoir plongé dans les jours les plus courts, qui s'accentuent à partir du 18 décembre jusqu'au 24 décembre, dans le monde romain antique, c'était la période des brumalia, la période des choses, les jours sombres, voués à une déesse qui était la déesse Angerona, la déesse des jours étroits. Dans la nuit du 24 décembre au 25 décembre, le soleil renaît vers le sommet du ciel, il remonte vers le sommet du ciel. Sa date opposée étant évidemment celle du solstice d'été. Du reste, les périodisations de ces deux dates, de ces deux moments de l'année, obéissent au même, reproduisent le même schéma. 24 juin pour le solstice d'été, 25 décembre pour le solstice d'hiver. Début de la période sacrale, 17-18 juin avec Saint-Avit de Missy dans le pays de Montcuq. Et 18 décembre pour le solstice d'hiver. On est là entre deux pôles opposés, involutif et évolutif, supérieur et inférieur de l'année solaire. Alors parmi ces symboles de Noël, je viens de vous parler donc de l'arbre toujours vert, il faut savoir que la tradition de l'arbre de Noël, avec ses lumières, ses boules rouges, etc., contrairement à ce qu'on s'imagine, certes elle nous est venue des États-Unis, où elle avait été introduite par des protestants de la vallée du Rhin et des Pays-Bas, qui s'y étaient réfugiés au XVIIe et XVIIIe siècle, qu'il avait amené avec eux, mais l'origine de l'arbre de Noël n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on s'imagine, ni néo-païenne, ni ne procède d'une volonté de déchristianiser le solstice d'hiver, c'est bel et bien une symbolique très chrétienne. Alors l'arbre de Noël, le sapin, toujours vert, apparaît au Moyen-Âge sur les parvis des églises, surtout des cathédrales, ou bien dans le cœur de celles-ci. Il apparaît au 12e, 13e, 14e, 15e, dans une région d'Europe bien déterminée, c'est l'Europe rhénane, mosellane, entre l'Oise, la Seine, la Somme et le Rhin. On est là au cœur même de l'Europe qui a été celle romano-germanique des Mérovingiens et des Carolingiens. C'est autour de l'axe de la vallée du Rhin qui a été le grand axe de pénétration de l'influence romaine et de la christianisation vers le nord. Alors c'est à partir de cet axe de la vallée du Rhin, en plein pays franc, mérovingien et carolingien, que va se développer la tradition du sapin de Noël. Voilà, je vous disais qu'on le dressait devant, sur le parvis des églises, des cathédrales, dans le chœur. On le dressait côté sud. Côté nord, on mettait un arbre sec. Alors on le dressait dans les églises, où, il ne faut pas l'oublier, la messe était célébrée, le prêtre tournant le dos aux fidèles. Les fidèles, comme le prêtre, tournaient vers l'Orient, vers les origines, vers l'Éden, vers le lever du soleil au jour de la fête du Saint-Patron, ou du solstice d'été, ou bien du solstice d'hiver, d'où quelquefois l'orientation bizarre de certaines églises, où l'axe du cœur n'est pas le même que celui de la nef. Alors, il y a une chose qui est tout à fait facile à observer à Montcuq, c'est que dans le cœur, à la barrière de l'ancienne Sainte-Table, comme on disait la barrière du chancel, côté sud, vous avez une sculpture que j'ai appelée le Viking, et qui est tournée vers les fidèles, alors que côté nord, il y a une sculpture qui représente un jeune homme qui a le front, blessé. Je l'appelle Lutsube Nyafrat, le jeune blessé. On est là côté évangile, côté sud, et dans la vision ancienne qu'on avait du repérage dans l'espace, ce côté sud, qui était aussi celui des évangiles, était celui à la droite des fidèles. C'était le bon côté, le côté de l'été, le côté de l'abondance. C'était dans l'imaginaire ancien le côté marqué par la couleur blanche, que l'on retrouve dans la symbolique druidique et dans les langues celtiques. Cette couleur blanche, c'est celle du sacré. Et là, on dressait, côté sud, donc du cœur, un arbre vert. Sur ses branches, on disposait des chandelles, des bougies, des lumières que l'on allumait le soir du 24 décembre pour la messe de minuit, la messe des Mietzonaïtes. On ornait ses branches vertes, ça provoquait un contraste de couleurs, de pommes rouges, de noix, de noisettes. La noix et la noisette rejoignaient les mythes celtiques des fruits de la promesse, des fruits de la promission, mais aussi des fruits de la sagesse, de la connaissance sacrée. La noisette, chez les druides, c'était le fruit de la connaissance. Et cela rejoint des mythes et des légendes qui tournent autour des sources et fontaines dans lesquelles, pendant la messe de minuit, des menhirs vont se déplacent et vont se baigner. Ils vont se tremper dans l'eau de ces fontaines. Ce sont des fontaines ombragées de noisetiers. Alors, les pommes rouges de l'arbre vert, dressées dans le cœur, à droite du cœur, au côté sud, dans nos églises tournées vers le soleil levant, auraient-elles peut-être la même signification que les pommes d'or du jardin des Hespérides, le jardin d'Occident? Ce sont des fruits d'immortalité bienheureuse, à l'ouest du monde, motif de l'île des Bienheureux, du voyage de Saint-Brendan. Elles ne sont pas les pommes rouges inductrices du mal dans le monde, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il était figuré dans le cœur des églises, côté nord du cœur, par un arbre sec, qui était un pommier. Cet arbre sec était dépourvu de tout ornement, sauf quelquefois de fruits comme les noisettes, car je vous le disais, la noisette dans le monde ancien, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on le retrouve donc associé par les druides à la connaissance, certes, mais chez les populations christianisées du Moyen-Âge, il avait pris le sens de fruit de la connaissance du bien et du mal, tout comme la pomme rouge. La pomme rouge ou la pomme rouge et verte entre dans beaucoup de rites de divination, célébré pour la Toussaint, la Saint-Martin, le solstice d'hiver et autres, qui sont des jours où les trépassés reviennent parmi les vivants. Alors cela se retrouve à Montcuq particulièrement, puisque nous avons ainsi les deux piliers qui encadrent le cœur sont ornés de sculptures bien particulières. Alors, je vous disais au sud, un personnage inquiétant que j'ai surnommé le Viking par l'air qu'il a, et qui pourrait être une figuration médiévale de Saint-Paul. Et côté nord, regardant les fidèles, un personnage au regard sévère que j'ai surnommé Saint-Pierre. Et effectivement, ça correspond à la répartition qui était faite de l'espace du cœur Dans l'Europe ancienne, on considérait que la moitié nord du cœur était vouée à Saint-Pierre, la moitié sud à Saint-Paul. La moitié nord était le lieu de l'épître, la moitié sud le lieu de l'évangile. Et ce n'est pas sans raison si on voit qu'à Montcuq, par exemple, alors du côté intérieur du cœur, côté sud, vous avez ce jeune homme au front entamé d'un coup de hache, que j'ai appelé Lutsu Ben Yafrat, et côté nord, un bloc de pierre qui n'a jamais été sculpté. Il a été taillé, poli, non sculpté, il n'a pas été animé. On est donc là dans le monde d'avant la création, d'avant l'animation de la matière. Et cette répartition des fonctions dans l'espace pourrait se retrouver dans ce qui explique ce que fut l'origine de l'arbre de Noël, l'arbre toujours vert. Je vous disais donc qu'il s'était développé surtout dans les pays de l'Europe germanique, romano-germanique, celle des Mérovingiens et des Carolingiens. Il ne faut pas oublier que Charlemagne restaure l'Empire romain d'Occident, que Clovis a été investi des fonctions de consul par l'empereur romain byzantin de Constantinople. Donc ce sont des gens qui ont une culture, certes, à base germanique, mais qui sont... ils ont une, comment dirais-je, une culture au sens ethnologique, si vous voulez, au sens sociologique, germanique, mais leur culture, au sens général du terme, est une culture romaine, une culture latine. Ils se veulent comme les restaurateurs du monde romain. Et leur pouvoir s'est du reste développé dans les régions qui ont été celles de la plus forte implantation de populations germaniques en Gaule romaine, de ce côté-ci du Rhin. Et cela dès le IVe siècle, quand Constantin a établi des prisonniers de guerre, tout simplement, des populations rasiées au-delà du Rhin, qu'il a établi de force, dans les terres agricoles abandonnées, entre le Rhin et la Meuse et la Somme, ou même la Seine. Comme disaient des auteurs de l'époque, désormais, les germaniques labourent pour nous les champs de la Gaule du Nord, des provinces de Belgique et de Germanie. Et c'est dans cette région que va se développer la coutume de l'arbre de Noël, qui est une espèce d'illustration du dogme chrétien, de la rédemption par la croix victorieuse, la croix triomphante. Le Christ, en mourant sur la croix, assure la rédemption de l'humanité pécheresse. Il efface le péché des origines, figuré dans le cœur par un arbre sec. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le pommier, mythiquement, vu comme étant un figuier. Et l'arbre vert, lui, représente, pour ces populations chrétiennes de l'Europe du Nord-Ouest, sous une forme visible, la croix du Christ. Il est la croix triomphante, la croix qui assure l'effacement du péché originel par le sacrifice du Christ et la rédemption. Donc le retour à la vie, plus exactement l'accès au royaume éternel, à la cité future et donc au royaume de Dieu, au royaume de l'éternité et de l'immortalité bienheureuse. Or il faut savoir que dans ces régions de l'Europe du Nord-Ouest, l'arbre qui avait précédé le sapin, dans les cultes et dans les rites, mais alors dans les cultes et les rites non chrétiens, c'était le hêtre qui perd ses feuilles pendant l'hiver. Le hêtre qui portait le nom en celtique de Bagos, d'où le nom de Bagat, à côté de Montcuq. En latin, c'est Fagus, d'où le nom occitan Fau ou Fazzo. Alors, chez les Celtes, les fonctions et vertus de l'arbre toujours vert concernaient bizarrement plutôt une fête d'entrée dans l'été, vers notre 1er mai. Et avec la christianisation, les fonctions et vertus de l'arbre toujours vert sont passées dans les populations d'enseignement celtique, des fêtes du début de la saison chaude, de la saison claire, de la moitié claire de l'année, vers notre 1er mai, aux fêtes du solstice d'hiver. Il y a eu une rétrogradation dans le temps, calendaire, c'est-à-dire que l'usage de l'arbre vert comme promesse d'accès à un monde d'immortalité bienheureuse sont passés des fêtes de fin avril, début mai, aux fêtes du solstice d'hiver. Et c'est la christianisation qui a amené cette rétrogradation dans le temps calendaire. Et on rejoint là, si vous voulez, à la fois les dogmes, les doctrines, les rites, la liturgie chrétienne qui est celle du baptême, de l'Eucharistie. Comme disait le pape Benoît XVI, l'Église vit de l'Eucharistie, elle est fondée sur l'Eucharistie, elle est fondée sur la résurrection du crucifié. Mais derrière cette résurrection du crucifié ressurgissent des antécédents celtiques, druidiques, voire même pan-germaniques. C'est ce que l'on sait par un auteur latin du 1er siècle avant notre ère, Lucain, dans la Pharsale. Il nous dit que chez les Celtes, de ce qui est de nos jours la région de Marseille, les Saliens, les Saluis, il y avait un arbre, un bois sacré. Il nous donne le nom des arbres en question. Et c'est très curieux parce que les arbres cités sont ceux dont le bois est utilisé comme bûche de Noël. Et il nous dit que là, bon, d'après ce qu'il nous raconte, on comprend que les rites tournaient autour du mythe d'un dieu sauveur cloué, appendu à un arbre axial, pivot du monde. Dieu sauveur qui se sauve lui-même et dont le sang était recueilli dans un chaudron d'immortalité, l'origine du Graal. Et dans ce chaudron d'immortalité, c'est ce que nous évoquent les sculptures du fameux chaudron de Gundestrup, ont plongé, pour les faire revivre dans une immortalité bienheureuse, les héros morts jeunes au champ de bataille. On est là, si vous voulez, au cœur des représentations du système de pensée, le monde et le temps, des Européens en général, des Indo-Européens même encore plus, mais au moins des Européens occidentaux, et je dirais de tout le monde indo-européen. Alors nous allons nous interrompre pour quelques minutes de musique avant de passer à la continuation du sujet. Alors, pour continuer, je vous parlais donc de l'arbre de Noël, sapin vert, toujours vert, Tannenbaum, le Weihnachtsbaum, qui reprend une vieille symbolique chrétienne médiévale qui fait de cet arbre vert une figuration de la croix victorieuse, de la croix rédemptrice, celle où le Christ a été crucifié, opposé et complémentaire de l'arbre sec figurant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le fruit avait été interdit par Dieu, créateur, à Adam et Ève. Cet arbre sec que l'on dressait côté nord dans le cœur des églises, alors que le côté sud était affecté à l'arbre vert. Et cette présentation, cette double opposition et complémentarité, figurait également, comment dirais-je, les deux pôles opposés du monde, le solstice d'hiver, le solstice d'été, la saison sombre, la saison claire, la saison froide, la saison chaude. On allait, si vous voulez, en tournant autour du cœur, en passant derrière l'autel, on partait de l'arbre sec au nord, vers l'arbre vert au sud, on allait du paradis perdu au nord, vers le paradis retrouvé au sud. Le sacrifice du Christ nous ouvrant l'accès au royaume éternel de la béatitude infinie. Alors, cette renaissance du soleil au cœur de la nuit la plus longue, qui est un mythe indo-européen, c'est celui de la grande nuit sombre et glacée, la nuit éternelle, celle de la mort, pourrait n'être que le souvenir du dernier âge glaciaire, de la nuit polaire boréale. Et on ferait renaître le soleil au cœur de cette nuit en faisant brûler dans la cheminée, le cantou de chaque maison occitane, une bûche de Noël. Alors cette bûche de Noël, elle porte plusieurs noms. Elle porte le nom de Cassofio, c'est-à-dire littéralement le cherche-feu, mais on l'appelle également, comme toutes les bûches, n'est-ce pas, elle porte un nom qui peut être celui de Cepo, de Suco, de Busco, on peut l'appeler également Usclau, On peut l'appeler de différents noms qui désignent pas n'importe quel type de bois, mais c'est toujours, toujours le bois d'un arbre fruitier. Alors, plutôt d'arbre à noyaux que d'arbre à pépins. Ça peut être une souche, ça peut être une branche maîtresse, ça peut être un tronc. Et les traditions veulent que le jour de Noël, à la veillée qui précède la messe de minuit, le grand-père, le doyen de la famille, l'ancêtre, le plus vieux homme de la famille, précédé de l'enfant le plus jeune, aille dans la réserve de bois, chercher cette souche qui a été mise de côté, rentre dans la maison, fasse le tour de la table, bénisse cette bûche, aidé de son petit-fils ou arrière-petit-fils, la place dans la cheminée et, après l'avoir bénie, l'allume. La bûche est dite devoir brûler au moins toute la nuit de Noël, voire même jusqu'au changement d'année, voire même jusqu'au roi. Donc c'est un petit feu. Ce n'est pas un grand feu chauffant, un grand feu flambant. Il faut que la bûche dure le plus longtemps possible, pendant les 12 jours, et les charbons recueillis serviront ensuite de talisman dans des rites de protection de la maison, des terres, de la propriété agricole, du bétail. Ils serviront de talisman dans des rites de protection des malades. On les conservera avec le laurier béni des rameaux sur le manteau de la cheminée avec une croix, un crucifix et une statue de la Sainte Vierge. Alors cette renaissance du soleil au cœur de la nuit la plus longue a dû ressurgir. Ce qui m'a beaucoup frappé en préparant ce travail, c'est que je pense que derrière tout cela, il y a la crainte d'une nuit qui ne finirait plus, d'une mort du monde, d'une mort du soleil, de la disparition de l'univers dans une nuit éternelle et glacée. C'est ce qui va ressurgir dans les représentations mentales des révolutionnaires déchristianisateurs des années 1792-1794, comme Saint-Just et Fouché. Et cela suscitera des insurrections anti-républicaines, dites chouanneries, catholiques et royales, dont la couleur était le blanc du sacré indo-européen, druidique et chrétien. Il faut voir que derrière ces mouvements qui opèrent rupture, mutation, en même temps que permanence dans l'histoire non seulement de la France, mais de toute l'Europe chrétienne, il y a la résurgence de très vieux mythes qui remontent jusqu'au paléolithique. Nos esprits sont formatés par les langues que nous parlons. Nous sommes des indo-européens et nous pensons dans les termes que nous impose la grammaire, le vocabulaire, la syntaxe des langues indo-européennes. Vous me direz, nos ancêtres, ou plutôt prédécesseurs du paléolithique, n'étaient pas des indo-européens, loin de là. Les peintres de Lascaux et de Pechmerle ont comme descendants les actuelles populations ouralo-altaïques, éleveuses de rennes de la Sibérie, qui sont aussi les ancêtres des populations amérindiennes dont je parlais dans l'émission précédente. Mais malgré tout, il y a, si vous voulez, dans l'inconscient collectif, des forces qui ressurgissent et qui expliquent parfois des comportements politiques que par ailleurs on ne pourrait comprendre que par les origines religieuses, intellectuelles, économiques, etc., etc., de la Révolution française. Il a été publié sur le sujet autant d'ouvrages que de thèmes possibles et imaginables. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est le fait que, si vous voulez, cette nuit sombre et glacée, qui était celle affectée par la couleur noire, l'obscurité, la nuit éternelle, la mort, rappelez-vous ce que disait Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Il faudrait également se rappeler le fameux discours de Saint-Just sur « Nul ne pourra jamais m'arracher cette gloire éternelle que je me suis acquise dans les siècles et dans les cieux ». On pourra m'arracher le cœur, etc., etc. Nul ne pourra jamais éteindre cette gloire éternelle que je me suis acquise dans les siècles et dans les cieux. Et Fouché qui disait « La mort est un sommeil éternel », auquel Robespierre avait répondu « Non, Fouché, la mort n'est pas un sommeil éternel ». Et alors donc, cette fête du solstice d'hiver est affectée par des couleurs qui m'ont paru intéressantes par leur contraste. Le rouge de la pomme, l'or de la lumière, le blanc du sacré, le vert de l'arbre qui manifeste la croyance à une immortalité bienheureuse. Ces lumières, ces pommes rouges qui ressurgiront lors des fêtes révolutionnaires étudiées par Mona Ozouf et François Furet. Mistral, dans ses Mémories et Racontes, nous raconte qu'il avait rencontré une jeune femme, une femme âgée en son temps, dans les années 1840, qui avait connu la Révolution. Elle avait joué lors des fêtes révolutionnaires le rôle de, je pense, non pas la déesse raison, mais Flore, la Flora romaine, la déesse de l'abondance, de la végétation, de l'abondance de l'agriculture. Et cette personne qui regrettait le temps de la Révolution lui avait dit, en voyant passer le petit Frédéric Mistral qui allait à l'école, « Diome, Pichu Fedeli, dis-moi, petit Frédéric, demandera à ton père, « Cour retournera l'outaine de la poumon ruzos. » Tu demanderas à ton père « Quand reviendra le temps des pommes rouges ?» Parce qu'elle avait figuré dans une fête révolutionnaire de la région de Mayenne, montée sur un char, elle tenait sur ses genoux un panier plein de pommes rouges qu'elle distribuait à la population. Alors cet arbre vert aux pommes rouges, aux lumières, mythe de l'éternel été, au fond, cet arbre vert du côté sud de nos églises, dans le cœur ou sur le parvis, cet arbre vert, c'est celui du paradis retrouvé, tel que en parlera Dante dans sa Divine Comédie, et qui s'oppose au paradis perdu de Milton. Ce paradis, c'est un jardin clos. C'est le paradaïcha persan, achéménide, mazdéen, zoroastrien. Et ce paradis retrouvé, c'est celui que figurent donc, autour de la crèche et accostant la crèche, les deux arbres, l'arbre sec du péché originel, l'arbre vert de l'éternité retrouvée. Alors, dans nos régions occitanes, cette période des 12 jours a été très étudiée, elle a été très marquée, parce qu'il y a des fêtes qui s'étalent entre Noël et le jour des rois. Alors la fête des Saints Innocents, le 28 décembre, avec la procession et la messe de l'âne. Il se pourrait que certains lieux dits de Montcuq, comme la Carriero et la Pussado de Macolase, la rue et la montée du Macolase, l'Ase c'est l'âne, de Narcès, qui veut dire les marécages, les infernopalus, vers Saint-Hilaire, évoque peut-être aussi cette procession de l'âne, qui était celle, le jour des Saints Innocents, où on commémorait la fuite en Égypte. Et les clergeons, les prêtres, célébraient dans le cœur une messe concélébrée, pendant laquelle les réponses aux hymnes et aux prières étaient remplacées par des hennissements d'âne. On criait « Ian, Ian ». C'est aussi l'annon de la fête des rameaux, de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, voire à Rouillac, la fresque nord, où Jérusalem est une cité céleste d'or et de lumière, comme dit le chant israélien actuel, « Yerushalayim shel hazahav veshel haor »« Jérusalem, ville d'or et de lumière ». Le 27 décembre, c'est Saint Jean l'évangéliste, sa nativité, le disciple bien-aimé du Christ, l'auteur du fameux prologue à son évangile, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu ». Parce qu'en latin, le « verbum », c'est la vox, c'est la voix. En grec, c'est le « logos », c'est la parole toute-puissante, créatrice du monde. En hébreu, c'est le « dabar », la parole, ce qui va donner le nom de « midbar », qui désigne le lieu de la parole, le saint des saints, mais c'est aussi le désert où se fait entendre la voix de Dieu. Et comme dit saint Jean, le Verbe était la lumière du monde. Le 26 décembre, avec saint Étienne, translation de ses reliques, c'est la cathédrale de Cahors, avec son portail nord, qui nous montre le martyre de saint Étienne au 3 août, vision de l'Apocalypse, du jugement dernier, qui donne une vision de fin des temps. Inversement, le 31 décembre, avec Saint-Sylvestre, qui s'oppose à Saint-Pierre au 29 juin, Saint-Sylvestre, le pape contemporain de Constantin, s'oppose à Saint-Pierre, premier évêque de Rome, contemporain de Néron. Sylvestre, c'est celui de la forêt, de la selva, de la forêt des origines romaines, comme du reste des origines de Montcuq, assez curieusement. Et cet homme Sylvestre, dans le cloître de la cathédrale de Cahors, cet homme sauvage, il accoste le blason des Luzèches et des Rouzés, qui étaient barons de Luzèches et seigneurs de Rouzés en vallée de la Séoune, au-dessus de l'église Saint-Aignan, dont je parle souvent. Et ce blason a été gravé sous l'épiscopat d'Antoine de Luzèches-Rouzés, fils de Guillaume, baron de Luzèches, et de Finamande de Rouzés. D'où, évidemment, des computations et des supputations calendaires sur le temps qu'il fait de Noël au roi, le temps des 12 jours, les proverbes sur les 12 jours, l'observation que l'on peut faire du temps qu'il fait dans la nuit de Noël. Comme dit un fameux proverbe occitan, « Nadal sense l'uno, de sen fedo se ne salvo pas uno. Noël sans lune, de sans brebis, on n'en sauve pas une. » En pays de Lozère, dans les 8 jours qui précédaient Noël, on sonnait les cloches chaque soir pendant une demi-heure. Le soir, la veillée de Noël, avant la messe de minuit, durait autant que pouvait brûler la bûche de Noël, Luca Sophocle, Luca Lendal. Pendant la veillée, avant la messe de minuit, les gens chantaient des petits Noëls populaires en Languedoc, in plano lingua rumano, Nadal stindaires, luzube pastre chumbeliabo, de rebeliabus pasturelez, cante Nadal, de bun mati e ibis pasalurei, la cambo medol, Nadal tindaires, Noël dont les cloches sonnent, luzube pastre chumbeliabo, le jeune berger sommeillé, de rebeliabus pasturelez, réveillez-vous petit berger, cante Nadal, chantons Noël, et de bun mati, c'est bien connu, de bon matin j'ai vu passer le train de trois grands rois qui allaient en voyage. En revenant de la messe de minuit, à Lozère, on mangeait l'estouffate. À Montcuq, on se contentait d'oranges, de gaufres, de crêpes, en buvant du chocolat chaud, ramené dans nos régions par les conquistadores. Ou alors du vin chaud avec des oranges, de la cannelle et du sucre brûlat. On prenait avec une pince à feu un morceau de sucre qu'on mettait dans le feu brûlant, dans le feu flambant dans la cheminée. Et ce caramel qui coulait, on le versait dans le vin chaud ou dans le lait. Alors il était absolument indispensable d'aller à la messe de minuit, à celle du matin comme à celle de la journée. Pourquoi ? Parce que les gens croyaient que les morts de la famille revenaient passer la nuit de Noël dans leur maison, qu'ils voulaient revoir. Et pendant la messe de minuit, alors que les gens étaient donc dans l'église, les morts mangeaient le repas qui avait été préparé pour eux. Et le repas de Noël dans nos régions, c'était le grand repas de fête, le grand repas de viande. Alors il y avait la poule grasse dans le bouillon avec du vermicelle. Il y avait les pièces de viande rouge achetées chez le boucher, l'oumazelier. Il y avait évidemment la soupe de nebe, il y avait les poulets rôtis, mais toujours des animaux de la basse-cour familiale. C'était un repas de grande fête et on peut dire de carnalazze, de mangiaille charnelle. On l'achevait avec des crêpes, l'ail pescazos, l'ail pescazunos, l'ail crustados. L'ail crustado, c'est cette espèce de brioche avec des fruits confits, l'ail frutos secados, confiezo en sucre, comme des coques. Ou alors avec le fameux pastis ou pastis du Quercy, qui n'est pas une croustade, qui est sans fruits et abondamment arrosé de rhum, d'eau de fleur d'oranger et de sucre. On buvait le vin de la maison ou bien le vin blanc que les gens préféraient, celui de Montbazillac ou celui du Château de Charry. Et puis évidemment, de nombreuses liqueurs à base d'eau de vie, dont les recettes sont connues des herboristes, apothicaires et autres. Je voulais achever là-dessus. Il fallait faire attention au jour de la semaine pendant laquelle tombait Noël. Noël, fêté le dimanche comme en 2022, annonçait un hiver, je vous retraduis de l'occitan que j'ai moi-même mis, Iber Cherabou de Ben Iberna. Il sera agréable l'hiver de bien hiverner, comme l'ours, si vous voulez, dans sa tanière. Il faudra donc rester à la maison, au coin du feu, bien boire chaud, bien manger, et dormir dans un bon lit bien chaud. Il faudra rester à la maison, dans une pièce bien chauffée, comme font les ours. Le printemps sera pluvieux, il sera abondant en fourrage, donc il y aura beaucoup de foin pour le bétail. L'été sera sec et venteux. L'automne sera plus ou moins sec. Par contre, tous les produits alimentaires seront de prix très abordables. Les prix baisseront. Les agriculteurs récolteront beaucoup de blé et de céréales panifiables. Par contre, peu d'avoine et les vendanges ne seront pas très abondantes. On se demande comment, après un printemps chaud et humide. On récoltera beaucoup de miel et beaucoup de foin. Pour qu'il y ait beaucoup de miel et de foin, c'est un printemps chaud et humide. Il y aura peut-être donc des gelées tardives qui endommageront les vignes. Et enfin et surtout, la paix viendra dans le monde. La pace vendra entre miez lo mundo. Et pour conclure, que dirais-je ? Gloria di en las alturas, per il mundaut, et pace sobre la terra plano, al zeimes de buono bollere. Alors, les aimes de Bunbor, c'est les âmes, Bunbor est bonne volonté, et il a Mundaut, le sommet du ciel. Le reste a déjà été dit pour Noël de 2021, je ne vais pas y revenir dessus. Alors, je pourrais vous allonger en vous citant mes recettes de liqueurs de Noël, alors liqueur de prunelle, liqueur de pétales de rose, anisette façon herboriste à l'ancienne, liqueur de genièvre, liqueur diverse contre toutes les maladies de l'hiver, mais je n'en finirai plus. Alors, je finirai quand même par un petit truc. C'est la fameuse observation du pays de mon père en Charente. Comme on disait, si, quand vous allez à la messe de minuit, les sabots font ric-rac sur un sol durci par le gel, il y aura beaucoup de grains et de fruits. S'ils font flic-flac sur un sol gras de pluie, il y aura peu de vin, peu de fruits, peu de grains, mais beaucoup de foin. Alors évidemment, on s'aperçoit que quelquefois, ces proverbes et observations se contredisent. Mais ils n'en sont pas moins intéressants, car cela peut s'expliquer par des différences de milieux naturels. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes, que vous porterez bien, et que, comme on dit, à l'an qui vient, et si c'est pas mal, que si y'a pas mal, à l'an qui vient, et si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. À la prochaine fois, donc, au mois de janvier 2023. Au revoir. Ai presa capo tuo emo.
Yeah.